onde poétique.
Au festival Voix Vive, à 7h.
Bonjour, bienvenue dans cette rue Garenne. Alors, c'est pas trop la campagne, je ne sais pas si les lapins courent par ici, mais nous, nous vous posons pas de lapins pour cette émission d'onde poétique dans le cadre donc de cette édition du Festival de Poésie Voix Vive. Bonjour, merci d'être là, vous tous. Nous nous présentons Laurent Keller, Yves de Fago de Radio Grille Ouverte, et nous avons le plaisir, une radio associative à Alès. Donc, on a fait un peu de route pour venir vous retrouver, et on a le plaisir d'accueillir Maria Maïlat, poète, anthropologue, sociologue, romancière, roumaine d'origine, mais française non seulement de cœur, mais également d'écriture. Et puis Arthur Scanu, qui vient de publier un très beau texte consacré finalement à une maladie rare. C'est rare d'ailleurs que l'on écrive sur une maladie. Vous nous en direz plus, Arthur. Dans quelques minutes. Mais tout d'abord, j'aimerais peut-être, Maria Maïlat, que vous nous parliez de vous, car finalement, vous avez quand même une carrière un peu particulière. Vous êtes née en Transylvanie, la patrie du légendaire Dracula, n'est-ce pas? Pardon?
Vlad Tepes,
un roman de Bram Stoker. Hein, oui, donc, essentiellement. Et vous avez commencé, bien sûr, vos études et votre vie professionnelle et personnelle en Roumanie avant de devoir quitter ce pays sous la dictature de Nicolae Ceaușescu, le génie des Carpates, comme il se faisait appeler. Mais vos écrits déplaisaient au pouvoir en place, et en particulier, vous étiez embêté par la trop célèbre Securitate. Et vous êtes arrivé ici en France. Et je vous laisse nous raconter la suite, parce que ça n'a pas été simple, je crois, votre arrivée en France, Madame Maïlat.
Oui, je suis arrivée en France, mais avec une chance, au-delà de beaucoup de malchance. J'aime toujours dire que le passé doit me délivrer des espoirs pour l'avenir. Donc j'aime présenter le passé, non pas comme une victime ou pour me plaindre, mais pour bien mettre en évidence ce que de ce passé peut nous aider à avancer. Et moi, ce qui m'a aidé à avancer, c'était la langue française, puisque je l'ai appris en Roumanie. Je lisais, j'écrivais couramment le français. Et pour parler, c'était très difficile, parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup d'accents en France. Et entre Marseille, Paris, Alès, le nord de la France, j'ai découvert une multitude d'accents. Et je dirais que parce que chaque personne a son rythme, son accent en français. Mais le français a été pour moi une planche de salut. Et je suis toujours en train de dire que ma patrie est la langue française. Je rêve en français. J'aime manger, faire l'amour, dormir en français.
Il y a quand même une tradition très francophile en Roumanie. Oui. On appelait Bucarest le petit Paris, si j'ai
oui,
bonne mémoire.
Absolument. Oui. Et c'est le seul pays de langue latine, on disait ça, dans un océan de mer slave. Dans un océan de langue slave, pardon.
Et Maria Maïlat, vous êtes née au sein d'une province roumaine qui était également maghiare, hongroise.
Oui, ma mère était hongroise et mon père est roumain. Et ils ont décidé de parler chacun sa langue. Donc je suis née bilingue et à 5 ans, ma mère raconte que je pleurais beaucoup en disant « Vous avez chacun votre langue et moi je n'ai pas ma langue. Et je veux avoir ma langue. » Et ma mère m'a fait découvrir l'anglais, le russe, l'allemand et le français. Et j'ai flashé sur le français, ou le français a flashé sur moi, je ne sais pas.
Maria Maïlat, depuis que vous êtes en France, vous écrivez directement en français?
Oui, j'ai mis quand même presque 10 ans pour passer de l'écriture en roumain, puisque j'avais publié en Roumanie, mais comme vous l'avez bien dit, j'étais interdit par la censure. Et j'ai mis environ 10 ans, j'ai mis au monde un enfant, mon troisième fils est né en France, Et voilà, au bout de 10 ans, j'ai osé donner mon premier manuscrit écrit en français. Ça a été pris par les éditions Julliard et avec le titre « Sainte Perpétuité ».
Alors, je tiens à préciser donc, que Maria Mailat est invitée ici dans le cadre du Festival de Poésie Voix Vive, mais qu'elle est également romancière. Et Laurent, ici même, qui n'a pas encore dit un mot, et moi-même, nous avons lu chacun un roman de Maria Mailat, l'un qui s'appelle « Quitte-moi », un formidable roman féministe, bien avant MeToo d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, l'histoire d'une liberté qui s'acquiert au prix de 1000 difficultés face à un mari, je vais le dire, un vrai connard. Hein. Oui, j'étais un peu grossier et brutal. J'étais un peu grossier et brutal, mais c'est l'impression qu'il m'a fait, Célestin, hein, je dois le dire. Et puis, Laurent, tu as lu un autre roman.
Oui, La grâce de l'ennemi. Alors, c'est un autre genre complètement, mais qui nous revient en Europe de l'Est, Europe centrale, entre des influences russes et puis peut-être les montagnes des Carpates aussi, mais dans un monde en guerre, une dystopie quasiment. Oui, un peu effrayante et puis avec un côté de réalisme magique. Il y a un côté comme cela où vous faites intervenir la magie du rêve, de l'imagination dans un monde violent.
Oui, c'est ça. Merci. Hein.
Cette liberté acquise par le personnage de Quitte-moi, Vera, est-ce que c'est aussi un peu votre histoire, Maria Mailat, de vous demander d'acquérir votre liberté en quittant ce pays dictatorial sous la dictature de Ceausescu?
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont transposées, pas uniquement de ma biographie, mais de la biographie de beaucoup de femmes que j'ai rencontrées en tant qu'anthropologue, puisque j'ai travaillé sur la question de l'émancipation des femmes en Europe. Et je me suis inspirée de plusieurs femmes. Vera n'est pas moi, et Vera, c'est une somme, une amalgame ou un mélange de plusieurs femmes. Et je peux dire que toutes les femmes, quand elles arrivent enfin à se libérer de l'emprise, elles constatent que l'ex était un vrai connard. Donc ça c'est vraiment un lieu commun, c'est pas que Vera, en général.
Merci
c'est...
de reprendre cette expression.
Malheureux Yves, qu'as-tu lancé
à la radio.
À la radio, oui.
Si vous écrivez vos romans en français directement, les poèmes, je suppose qu'il en est de même, mais vous aviez commencé à écrire de la poésie déjà en Roumanie.
Oui, j'ai publié pas mal de poésie, j'ai publié des nouvelles, beaucoup de chroniques de théâtre, de cinéma. J'étais très engagée dans la publication jusqu'à l'interdiction par la censure, j'ai publié. Et puis j'ai traduit du roumain et du hongrois, du français en roumain. Et aujourd'hui, je traduis du roumain en français et du hongrois en français.
Vous avez traduit notamment une autre exilée.
Oui.
Agatha Christophe,
oui.
Qui elle s'est installée en Suisse.
Oui, oui, absolument. Et qui a écrit aussi en français ses romans et ses poèmes en hongrois, qui n'ont jamais été traduits. Et j'ai traduit 60 poèmes d'Agatha Christophe, parus aux éditions Zoé, qui s'appellent Clou.
Clou, tout simplement. Au pluriel, oui.
Clou.
Et vous n'avez pas la même. On s'attarde juste un instant. Vous n'avez pas exactement la même expérience qu'Agatha Christophe, justement, avec ouais. Le français, avec la langue française.
Ouais, ouais.
Elle a eu beaucoup de mal avec ouais. La langue française.
Ouais. Alors elle a écrit l'analphabète, qui est un tout petit texte, toute petite, pardon. Ah là, pardon. Tous mes poèmes veulent s'envoler. C'est intéressant, ça d'ailleurs. Oui, elle a eu un rapport très conflictuel.
Alors que vous, non, vous, vous avez été...
Elle disait souvent cette foutue langue française. Elle est difficile, parce que je l'ai connue, on s'est connus pas mal. Et voilà, elle aussi, elle utilisait des mots comme vous.
Bon, maintenant, peut-être on va entendre vos mots à vous, peut-être, Maria Mailat. Si vous voulez bien nous lire un de vos premiers textes, parce qu'encore une fois, oui. Nous avons été privés de la lecture de vos poèmes. Ouais. Pour des
Alors,
raisons
je vais
techniques
vous lire
indépendantes.
Lettre à la mer noire, qui est aussi, figure aussi dans l'anthologie de la maison de poésie du Rhône-Alpes, qui sera présentée ici à 7 dans 2 jours, je crois. Et nous sommes plusieurs dans cette anthologie. Et j'ai écrit donc une lettre à la mer noire. La mer qui m'a vu naître ne parle pas les mêmes langues que toi, Méditerranée. Bien que tes mondes irisés coulent jusqu'au détroit de Bosphore et Dardanelles. Ta sœur de l'Est te tournent le dos avec le Danube, le Don, le Dniepr. Ses rives bordent l'inhospitalière steppe pontique où les vents couronnés de chardons fondent en larmes dans les yeux des bêtes. Ces vagues, telles des sabres courts, s'abattent sur les navires et frappent les argonautes pourchassant la toison d'or. Combien de naufragés ont sombré dans tes eaux, fuyant les ténèbres. Tes vagues ne protègent personne, même pas les flancs de la fière Crimée. Tes sueurs de plancton recouvrent les corps brûlés qui nourrissent les poissons. Les maîtres de l'histoire ont oublié ton nom de fiancé du poète Ovide et du malheureux Orphée. Bien avant eux, les dieux de l'Olympe ont su te vénérer. Zeus lui-même t'appelait Euxénios Pontos, la mère amicale. Avec ta jumelle, la douce Marmara, vous avez enfanté les plaines fertiles de Colchide. Mère amicale, à force d'attendre un messie, tu as compris, n'est-ce pas, ami? Il n'y a pas d'amis. Les épaves chargées de seigle, de maïs, de blé, les sous-marins lestés de bombes, ne laisseront peut-être jamais la paix fleurir sur tes rives, hécatombe. Je t'écris d'un exil choisi, dans une baie où l'ange s'absente. Parfois, l'inquiétude me gagne. Quelle vague frappera à ma porte? Quel gardien me demandera de quel peuple je me suis retranché et d'où vient mon accent fluctuant, tremblant comme un enfant caché dans une vieille armoire d'ébène, sépulture d'herbes et de cartes moisies, fécondées de spores, pâtures, de poussière. Mon grand-père, berger, aimait déchiffrer les ondes des marées dans les étoiles. Collectionneur de boussoles, compas et portulans, il me disait que pour lire un poème à voix haute, il faut avoir le pied marin, même s'il n'avait jamais vu la mer.
Il avait bien raison, votre grand-père, oui. Pour lire un poème à voix haute. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Très bien, merci. Juste une remarque. Vous citez Ovide, le poète latin, qui avait été exilé, justement, déjà, précisément, autre exil dans un autre sens.
Au bord de la mer Noire, dans la ville de Constanza, effectivement.
Oui.
Il a écrit pratiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il les a écrits là-bas.
Laurent.
Mais je pense qu'on a peut-être un moment musical avec...
Avec Folie Douce.
Avec Folie Douce, Altea Ashoka. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous présente maintenant, vous êtes clarinettiste. Et sous le nom de Folie Douce, vous avez un projet pop, de chansons pop. Mais là, c'est à la clarinette que l'on va vous entendre à présent.
Et oui, sur le festival Voix Vive, j'accompagne les poètes en tant que clarinettiste et chanteuse. Et en dehors, j'ai mon projet chanson qui s'appelle Folie Douce. Mais là, on me présente surtout avec mon prénom. Donc c'est Altea.
Altea.
Merci Althea, bravo.
Alors, à présent, on va pouvoir discuter avec vous, Arthur Ascanou.
Bonjour.
Alors, vous êtes une jeune poète. Vous avez tout de même déjà deux recueils publiés. Et puis, ce recueil qui est paru cette année, en 2025, Second Souffle, paru aux éditions Bruno Doucet, oui. Et qui reprend un texte que vous avez déjà donné dans un cadre associatif. Alors, on a discuté au début de cette présentation. Ce texte parle de la maladie, d'une maladie respiratoire. Et évidemment, pour la parole, pour les mots, les textes, les mots qui sont très importants, vous l'affirmez au cours de l'un de ces, ou de plusieurs de ces poèmes. Les mots viennent substituer la douleur. Alors parfois, on veut faire avancer les émotions, etc. Mais dans le cadre d'une maladie, tout ce qui est ressenti, émotion, parfois est négatif et il faut réussir à le renverser positivement par les mots. Et c'est ce que vous avez offert à une association d'aide aux malades avec ces textes. Et ce texte a vécu déjà. Au moins depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il vit à travers des ateliers dans les hôpitaux et auprès des malades. Alors parlez-nous de cette expérience étonnante.
D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous écoutent à la radio. Alors la genèse de ce projet est un peu atypique, puisqu'en fait, c'est la rencontre dans le travail du projet de mon père et du mien. Il se trouve que mon père n'est pas du tout lecteur de poésie, mais alors pas du tout, et qu'il est atteint d'une pathologie depuis 2004, qui s'appelle la BPCO, qui est une bronchopneumopathie chronique obstructive, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et il a fondé une association qui s'appelle Respiracteur pour venir en aide aux personnes atteintes de ces pathologies, mais aussi pour venir en aide aux accompagnants et aux accompagnantes dont on parle toujours un peu moins, mais qui vivent aussi avec ces pathologies. Et il me parlait de ces événements caritatifs. Moi, je lui parlais de ma poésie. Et puis, on avait des chemins parallèles, mais qui se rencontraient finalement pas. Puis, à un moment, un peu sur le ton de la blague, il m'a dit est-ce que tu pourrais pas écrire un ou deux poèmes sur le souffle pour aider les patients, pour aider les accompagnants, et je les lirai à la fin des rencontres, comme ça. Alors, à cette époque-là, j'étais au chômage, donc j'en ai écrit un, puis deux, puis cinq, puis 10, et en fait, je me suis retrouvé avec une 50aine de textes, donc j'ai pris la mission très au sérieux. Et ça a commencé à constituer un recueil. Puis mon père a mis en place un petit cahier des charges. Il m'a dit, alors, celui-là non, celui-là oui, celui-là un peu trop long, celui-là je comprends pas. Et puis il a commencé à dire, oh, celui-là pour moi c'est plutôt un C, celui-là pour moi c'est plutôt un B, celui-là pour moi c'est plutôt un A. Et il a commencé comme ça à constituer lui-même son recueil. Alors c'était assez amusant. Et puis finalement on s'est retrouvé avec 56 textes. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va l'imprimer, nous. Et donc, on l'a tiré à 4000 exemplaires.
4000 ?
Et on les a distribués gratuitement à des patients et à des accompagnants, intégralement gratuitement, on les a distribués. Moi, j'en ai récupéré quelques-uns pour les distribuer à mes amis autour de moi, en me disant, c'est une commande, c'est un projet un peu atypique. C'est pas forcément ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cette commande, mais je voulais le donner à des amis. Il se trouve que je connaissais Bruno Doucet, je lui ai donné le texte en disant, si tu veux regarder ce que j'ai fait récemment, si tu as le temps, je sais que tu es occupé, mais comme ça tu verras un petit peu. Et puis quelques mois plus tard, il m'a appelé et il m'a dit, Arthur, j'aimerais donner un second souffle à Second Souffle. Et donc ça a lancé le projet pour cette édition qui, elle, n'est pas hors commerce et qui a été retravaillée pour que je me le réapproprie aussi, qu'on sorte un peu de ce travail de commande. Voilà un peu la genèse du projet.
Alors, vous le dites à un moment, ce ne sont pas des mots pour soigner la maladie. Ils vont accompagner une démarche, mais vous, voilà, la thérapeutique, voilà, expliquez-nous un petit peu cette petite hiatus qu'il peut y avoir.
Oui, ça c'est un passage dans la postface. J'ai écrit une postface à la fin pour expliquer à la fois ce que je viens de vous raconter sur la Genèse et aussi pour essayer de réfléchir un peu à ce que peut la poésie. Bruno Doucet utilise la belle expression des mots, M-O-T-S, contre les mots, M-A-E-X. Mais on ne peut pas prétendre soigner par la parole comme on soigne par le médicament. C'est un autre type de soin, c'est une écoute, c'est un effort d'empathie, c'est aussi le fait de se savoir compris, entendu, que ce qu'on vit est une réalité qui n'est pas que personnelle, qu'elle est partagée, qu'elle est commune. Et c'est dans cet espace du commun, dans cette volonté de trouver ce fameux second souffle dont on a tous besoin, que ce recueil s'est installé.
C'est aussi une façon de remplir le temps. Voilà, quand on est à l'hôpital, quand on est assis, quand on est couché, le temps, voilà, on est... on a devant soi de longues heures et par les mots, par le retour sur soi, par les mots, vous arrivez à remplir ce vide, ce grand vide qui se creuse.
Oui, ce qui est très difficile, c'est que la première chose qu'on perd quand on a des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, qu'elles soient physiques ou psychologiques, c'est qu'on se tait. Petit à petit, on arrête de dire et mettre des mots sur ces mots, justement, c'est retrouver du dire et retrouver du dire, c'est retrouver la possibilité d'un échange, c'est retrouver la possibilité de l'interaction, de recréer un lieu d'intimité et de renouer finalement du lien qui est quand même fondamental, ne serait-ce que dans le bien-être, dans l'attention qu'on porte à soi, voilà.
Et d'avoir des échanges, des discussions qui ne portent plus sur la maladie, sur la difficulté.
C'est ça. Et dire qu'il y a de la vie. Voilà. Là-dedans, il y a de la vie. Et cette vie, elle se manifeste, en l'occurrence, par de la poésie, mais elle se manifeste par du fantasme, du voyage, de la mémoire, du souvenir, un geste. Cette vie, elle se manifeste peut-être de manière plus ténue, plus à bas bruit, mais quand même, elle se manifeste et il faut savoir la saisir.
C'est ce que vous faites, d'ailleurs. Il y a un poème où vous évoquez les souvenirs que vous avez avec votre père, enfant.
C'est ça. Alors, c'est un poème sur les souvenirs avec mon grand-père qui d'ailleurs, je peux, si vous voulez, le lire, puisqu'en plus, il est même mis dans l'anthologie du festival.
Vous feuilletez, on discute, on prévient les auditeurs, vous feuilletez le livre que vous avez entre les mains.
C'est ça. Il suffit d'un beau rêve ou d'un souvenir tendre pour être soulagé. Mon grand-père, en juillet, m'emmenait voir les courses de chevaux, parier sur Epic Poet, Blue Ink ou Royal Force. Puis au bistrot, boire un baby, lui un 102 ou 2, avec ses vieux amis, avec des cacahuètes et des pistaches hyper salées, avec des jeux à gratter, tous perdants. Puis à la mer, pour aller ramasser quelques moules, avec au loin les porte-conteneurs, les grues, les usines de fosses, l'odeur des méthaniers. Puis au boulodrome à Michelet, assis sous un banc, sous un platane, et les après-midi entières, les pieds sur la glacière, à trouver le temps long. Je fais l'effort d'y repenser, quand je suis pétrifié de peur, que je n'ai plus la force d'être fort, je fais l'effort de repenser à quelques tendres souvenirs qui me rappellent que je suis bien plus qu'une ombre douloureuse.
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, Arthur.
Alors je continue un peu.
Oui.
Nous n'aurons pas assez d'une seule existence pour embrasser suffisamment tous les amis que nous aimons. Demain, vers midi, nous les réunirons autour de cette table et nous boirons les vins de notre passé. Nous mangerons jusqu'à n'avoir plus faim pour oublier l'heure de nous dire au revoir. Nous aurons oublié nos disputes absurdes et les raisons de nos disputes. Personne ne voudra quitter la table immense au milieu du jardin, les verres vides qui se remplissent par magie, les grands éclats de rire, les guirlandes accrochées entre le chêne et le tilleul, les enfants qui partent se cacher à 10, 9, 8, 7, 6. La nuit, il fera chaud, avec assez de vent pour que ce soit paisible. Nous oublierons que le mot fatigue a un jour existé. Les anges, à côté des hiboux, prendront des notes sur comment remplir toute une éternité. Le vent jouera à chat avec les chiens entre nos cuisses. Quelqu'un inventera un air de musique gaie, et ça sentira bon les repas longs, le calva dans les tasses à café, le fromage, la vanille, la tomate et la citronnelle. Nous n'aurons pas assez d'une seule existence pour embrasser suffisamment tous les amis que nous aimons, mais demain, vers midi, nous essayerons.
Arthur, votre univers, on a envie d'y être, on s'y sent bien.
Merci. C'était un peu le projet, c'est-à-dire ne pas occulter la réalité de la souffrance ou de l'appréhension, de l'angoisse et de ce que la pathologie peut faire contempler comme vertige, mais rappeler quand même qu'à l'intérieur de ça, il y a du beau, il y a du tendre, il y a de l'agréable, et que celui-là, il doit être exprimé, et que c'est peut-être le travail de la personne qui écrit de faire ce travail-là de déploiement d'une intimité. Voilà.
Il y a quelques réflexions de philosophie, des principes de vie également, des aphorismes parfois, c'est très agréable à lire aussi pour cela.
Merci.
Et puis il y a ce texte qui m'a aussi bouleversé, c'est « Je n'ai pas voulu ». Je n'ai pas voulu être ce malade, en fait, ce malade branché sur tous ces tuyaux et qui se plaint, qui gêne, qui a mal. Je ne suis pas cette personne-là.
Oui, parce qu'à côté des poèmes qui sont plus lyriques, ceux que j'ai lus là, par exemple, parce que c'est bien aussi d'avoir ce type de texte, mais à côté, il faut aussi dire ce que c'est que d'avoir parfois la honte aussi d'avoir ce corps endolori, etc. C'est un petit texte. Je n'ai jamais voulu ces deux mains sur mon cou qui m'étranglent. Je n'ai jamais voulu envahir la maison de tuyaux, de câbles, de pompes. Je n'ai jamais voulu devenir vulnérable. Je n'ai jamais voulu imposer mon désert à ceux qui me regardent. Mais je ne peux plus cacher les dunes de sable dans le fond de ma gorge, ni déguiser ma vie ankylosée, ni empêcher qu'on me confonde parfois avec cette ombre que je traîne. Mon amour, ce matin j'ai arraché un jour de plus, et je veux croire qu'on ne perdra jamais notre tendre combat. Mon amour, regarde-moi dans les yeux, je fais de mon mieux, je ne veux plus penser à ce que j'aurais dû mieux faire, ni répéter que je suis désolé.
Comme Althea, comment traduire, comment la clarinette pourrait-elle traduire les mots d'Arthur Scanu?
Thank you.
Merci Althea d'avoir apporté votre souffle aux mots d'Arthur Scanu. Maria Maelat, tout à l'heure, vous nous avez montré un poème. Vous auriez souhaité que nous le lisions ?
Non, je voulais juste préciser que j'ai une suite de poèmes que j'ai commencé pendant le confinement qui a bouleversé nos vies. Et dans cette suite de poèmes, je me suis dit, si c'était la fin du monde, quelle sera l'écriture que je voulais laisser derrière moi ? Et j'ai écrit une série de capsules de ce que j'appelle anthropoèmes, dans laquelle j'ai condensé des savoirs d'anthropologue, mais dans un langage poétique, en me disant que si demain il n'y a plus personne au monde, au moins on saura quelque chose sur les Inuits, sur la vallée de la Vésubie, sur mon chien Panim, et ainsi de suite. Donc j'aimerais, si on peut là, lire un poème un peu plus long et deux poèmes très courts de cette série de capsules qui s'appelle des anthropoèmes.
Bien sûr.
Et je vous confie le premier.
Bien, merci. Ulu. À l'ouest de la grande montagne de glace, même les yeux fermés, les femmes savent retrouver le chemin invisible qui chante sur l'échine éblouissante de leur grande île, autrement appelée Groenland, Kanahak. Là-bas, Uli est le nom du couteau des femmes. Le premier est tombé d'une étoile filante qui a creusé un cratère de feu dans la glace. La femme fut la première à s'approcher du cratère. Elle entendit rire le petit enfant qu'elle portait emmailloté sur son dos et sa main agile s'élança sans crainte vers Ulu. Elle le prit par la manche en bois de caribou. Elle huma son odeur de sang, mira son visage dans la lame brillante parfaitement arrondie, feuille polie de météorite, une merveille sur les terres inuites. Ulu est inséparable de la femme qui coupe et nettoie la peau des animaux chassés en été quand la glace pleure et ouvre ses pièges mortels, dangereux même pour les chasseurs. Ulu coupe les cheveux du nouveau-né et du vieux hirsute, tranche finement le tendon du renne pour en faire du fil à coudre et habiller les hommes d'une autre peau qui résiste aux morsures de la glace, des requins et des lions de mer. Ulu évide le poisson, découpe les blocs de glace. Rien de mieux pour les igloos bâtis dans la ville d'Inuvik, lieu de vie sacré, abritant le hameau d'Ulukatok, où le premier couteau reçut le nom Ulu, 2000 ans avant Jésus-Christ. Merci.
Le deuxième poème, l'alphabet scatologique de Panim. Panim est le nom de mon border collie. Et je commence avec une citation de Patrick Lopin. Ainsi chacun porte en lui son propre livre de mots oubliés. Impossible de se promener sans la laisser renifler. Elle piste mot après mot la trace à l'horizon des crottes. Devant une grosse hostie de la divine absence, je vois son corps se figer, entrer en transe, sa truffe frémit, sa queue se balance, ses allaitements bruyants battent la cadence. Jadis, la bouse de l'étable que l'on jetait dehors formait d'étonnantes monticules et contreforts, mouscailles brillantes fumantes au soleil, cartes chatoyantes de mares et rivières. La bouse, disait mon grand-père, est la chair de l'arc-en-ciel, son origine à l'envers. Obéissant à quel appel, les oiseaux, maîtres de l'air, arrivaient au festin des vers, leurs ailes soulevant des courants d'air, les effluves pénétrant dans la maison tordaient nos nez d'effroyables frissons. Parfois, leurs pattes et leurs ailes étaient aspirées par le fumier. Il fallait vite prendre une pelle, les secourir, les aider à s'envoler. du souvenir fumier, nulle rédemption n'advienne. Et même si je me mets à imiter ma chienne, visage baissé au plus près de la crotte, je ne sais pas lire la trace encore chaude, ni psaume ni code n'ouvre cette porte pour que je puisse passer de l'autre côté, vaincre la nausée et déchiffrer sans vomir l'alphabet de Panim et comme elle en jouir et trouver dans le secret de l'immonde l'infini recommencement des mondes.
Le confinement avait des vertus, finalement.
J'étais confinée dans la vallée de la Vésubie, dans le Mercantour. C'est pour ça que je parle d'une baie où l'ange s'absente, parce que ça s'appelle la baie des anges, n'est-ce pas? Mais l'ange, il faut le chercher vraiment beaucoup. Hein.
Peut-être que sont-ils partis, les anges, actuellement.
Et donc, oui, c'est un peu... Donc, j'ai écrit toute une série de poèmes qui, une partie de ces poèmes ont été publiés l'année dernière dans un recueil.
Oui, alors dites-nous, parce qu'effectivement, nous n'avons pas eu la chance
le
de...
stand de Transignum en bas.
Chez quel éditeur?
Abri, qui est éditeur Tripode, un éditeur de Barcelone. Et c'est en fait écrit avec une amie traductrice en catalan qui, à chaque fois que je lui envoyais un poème, elle le traduisait en catalan. Et ça a finalement abouti à un recueil de poèmes qui sont aussi en français. Et bien sûr, moi, j'écris en français, mais en catalan aussi. Et ça a été un peu notre trésor du confinement. Et donc, j'ai vécu avec Panim. Je n'ai pas vu d'être humain pendant très longtemps, pendant des semaines. Il n'y avait que des crottes de sangliers, je pense, hein, parce que je n'étais pas aussi experte que Panim. Mais en tout cas, il y avait énormément d'oiseaux.
Il y avait de la vie.
Il y avait beaucoup de vie, surtout la nuit. Il y avait beaucoup de lucioles, parce que les lucioles sont revenues pendant le confinement. Oui. Il y avait beaucoup d'insectes, beaucoup d'animaux sauvages. Des renards, enfin, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai écrit toute une série et j'ai écrit un petit poème qui s'appelle Racine. Puisque chaque fois, les gens me disent, mais vous n'êtes pas française, vous êtes roumaine. Oui, je suis roumaine, française. En France, je suis roumaine. En Roumanie, je suis française. Racine. Ici, l'aube tombe avec les figues moisies. L'encre sucrée attire les papillons et les guêpes. Sous le ciel de la Méditerranée, les nuances des sons me rendent analphabète. Ici, le pain est noir par choix. Autrement, le pain blanc fait la loi. Ici, sous les branches des amandiers, la chasse à la glu ouvre des plaies et cloue les ailes des chars d'honorés et saigne le silence quand ma main cueille le serin sini aux pattes arrachées, tombé du nid. Ces cris me rappellent l'hymne rythmé d'anciens prolétaires, chant d'adieu perdu sans retour entre les grandes surfaces et les tours. Le serin sini sera enterré sur le lopin de terre que j'ai acheté sans être d'ici, étrangère. Désormais, ma racine pousse dans la tombe de minuscules oiseaux criblés de plomb.
Arthur Scanu, vous n'avez pas eu l'occasion d'écrire pendant le temps du confinement ?
Pendant le temps du confinement, pas trop. Pas trop. J'ai emménagé la veille du premier confinement, donc j'ai emménagé, j'ai défait des cartons, essentiellement. Et puis, c'est vrai que... Et puis j'ai travaillé, puisque dans le tertiaire, on pouvait un peu encore télétravailler sur les ordinateurs, etc., faire des réunions. Oui. Voilà,
des réunions Zoom.
C'était pas passionnant. Oui.
Arthur Scanu, oui. Tout à l'heure, Laurent signalait effectivement combien votre texte a une importance, je pense, pour les malades, précisément, qui sont affligés de cette maladie qui s'appelle rappelez-moi.
Alors, en l'occurrence, c'était sur la BPCO, oui. le point de départ, mais en fait, ça s'est ouvert au fur et à mesure à toutes les pathologies chroniques, disons.
Et comment eux réagissent à vos textes ?
Avec une émotion qui, moi, je suis très, très, très poreux à l'émotion des autres. Donc, avec une très, très belle émotion qui m'émeut énormément. C'est d'abord, la première personne à qui je pense, c'est à mon père. Parce que ça a été mon premier lecteur.
Et correcteur.
Et éditeur. Et c'est un acte assez particulier parce qu'à la fois, c'est un jeu. Alors, on passe du jeu au tu, au nous, au on, etc. Parce que on change de pronom, enfin, au fur et à mesure, parce que pour varier les points de vue, on n'est pas toujours de la place de la personne qui est en souffrance, on est aussi dans la peau de l'accompagnant ou de l'accompagnante. Il y a une variété des points de vue. Et donc, mon père, très très ému. Très très ému, et donc moi très très ému aussi. Voilà, donc c'est disons que il y a une différence entre écrire de la poésie, ce qui est, disons, 99% de mon temps de poète, c'est pour écrire de la poésie, et le 1% de rencontre, qui est vraiment une part infime du temps consacré à cette pratique. Et on est, en tout cas, c'est le premier vrai recueil qui est paru là en février, et je m'attendais pas à autant d'amour et de bienveillance et de retour. Voilà.
Eh bien,
on peut peut-être lire un poème à nouveau.
Oui, et pas qu'un.
Oui.
On a encore du temps devant nous avant de céder encore une fois la parole, plutôt la clarinette.
Ma pneumologue a dit le bilan n'est pas bon. Il faut perdre du poids, on va changer les doses. Mon psychologue a dit qu'il faut du lâcher prise et qu'il faut que j'apprenne à m'aimer. Ce matin, ma balance avait pris 2 kilos. Mon coach continue ses encouragements, mais c'est pas gagné. La femme que j'ai vue dans la publicité a dit qu'avec un seul produit, je pouvais rajeunir de 15 ans, qu'avec son tout nouveau programme amincissant, je pouvais perdre jusqu'à 20 kilos. Mon kinésithérapeute a dit que j'ai le dos le plus tendu, que j'ai la nuque la plus raide et qu'il me faut de l'exercice. Ma voyante a prévu que ma vie changerait dans les 6 prochains mois grâce à Vénus ou à Mercure. Ma naturopathe a dit que j'ai trop de sommeil en retard, des mois ou des années de sommeil en retard. Puis ma nutritionniste a dit que je manquais de fer. Apparemment, il n'y a plus que moi qui ne sais plus quoi faire. Si je n'ai plus de force, que je ne peux plus rien dire, entends mes yeux, presque immobiles, crier combien je t'aime, seule chose qui vaille. Combien de fois tu auras patienté que je m'endorme pour tolérer de pleurer rien qu'un peu? Combien de fois tu as rêvé d'un réveil un dimanche avec rien de changé, sinon mon grand sourire sur mon visage enfin guéri? Combien de fois tu n'as rien dit? Combien de vies me faudra-t-il pour te rendre 1/100 de ce que tu mérites? Quelques millions de vies peut-être, même si je sais bien que tu répéteras pour ces millions de vies que je ne te dois rien. Maintenant, tout est si loin, si haut, qu'un escalier est devenu insurmontable et que nos yeux s'essoufflent à regarder au loin. Tout est si loin, si haut qu'on est pris de vertige, rien qu'à se regarder dans un miroir. Tout est si loin, si haut qu'on ne voit plus que des montagnes et des rêves pleins de neige. On s'habitue à vivre avec les yeux baissés pour ne plus voir que tout semble si haut et si insurmontable. On s'habitue à vivre avec les yeux baissés et à ce qu'on nous dise, il faut surtout pas regarder en bas. Je marche lentement, je parle lentement, j'embrasse lentement, et tout autour de moi, la vie va vite et vite et vite. Je ne veux pas la regarder aller si vite en repensant à ma lenteur, donc je l'habite avec suffisamment de joie pour ne pas la laisser m'échapper. La joie que je lui vole est à moi. Je ne veux pas que mon dernier baiser soit un bouche-à-bouche. Si j'ai le droit de me réincarner, laissez-moi devenir une fenêtre ouverte, impossible à fermer, un jour de Mistral. Je veux juste sentir tout l'air possible s'engouffrer à travers moi. Merci.
Merci, Arthur. Althea, on vous laisse encore la parole avec votre clarinette pour un dernier air. Vous voulez bien ? Merci. Althea, Althea, alias Folie Douce également, et on peut retrouver ton disque, Morose.
Au stand du festival.
Voilà, comme on peut retrouver bien sûr les ouvrages d'Arthur Scanus et de Maria Mailat. Alors Arthur, juste un mot, j'ai vu dans le communiqué de presse des éditions Bruno Dusset que vous étiez libraire également. Oui.
Oui, je suis libraire, exactement.
Et où donc ?
Dans une librairie qui s'appelle la librairie Compagnie à Paris, qui est en face de la Sorbonne, voilà, c'est...
Voilà, s'il y a des Parisiens dans l'assistance ou qui nous écoutent,
qu'ils
puissent aller vous y retrouver. Voilà.
Avec plaisir.
Maria Mailat, donc vous êtes poétesse, bien sûr, c'est dans ce cadre que vous êtes invitée par Voix Vive, mais vous êtes également romancière.
Oui, en effet.
Et aux éditions Fayard.
Oui, et Julia Fayard.
Et Julia Fayard. Oui. Et là, il y a un ouvrage qui vient de sortir, vous avez une actualité ?
Je n'ai pas encore d'actualité, j'étais absorbée par la poésie et par mes balades avec mon chien. C'est mon premier chien, donc je suis complètement gaga.
Continuez à écrire sur votre premier chien, ça sera un plaisir que de vous lire. Merci.
Merci.
Est-ce que je peux juste avoir une dernière...
Une dernière intervention de Laurent Keller.
Question, c'était pour voir un peu... ça m'est venu comme ça en vous écoutant. Arthur Scanu, très dans l'immédiateté, dans le présent, dans l'instant présent. Et Maria Maïla, vous avez certainement cette démarche-là, mais vous avez aussi une propension à aller chercher profondément dans l'histoire humaine, dans les mythes, dans l'histoire grecque, dans les personnages de notre imagination, de la littérature. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ces références-là ?
Je pense que j'admire énormément cette écriture que vous avez, cette immédiateté, cette fièvre du présent qui résonne, je pense, pour nous tous. Et moi, je suis effectivement dans le présent, mais je suis aussi dans l'idée que nos racines ne sont pas dans le nationalisme, dans l'identitaire, dans tout fout le camp, pauvre dame, et cette façon de nous emporter dans une mélasse débile. Mais on a un certain nombre de mythes universels qui sont à la portée de tout le monde, comme la poésie, et que si on est ignorant par volonté. C'est pas parce qu'on peut pas aller au-delà de Facebook ou ouvrir un livre, regarder toute cette richesse qui, en fait, constitue notre culture universelle. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et j'essaie d'être aussi dans le présent, puisque je vous ai parlé de mon chien, mais dedans, j'essaie de trouver aussi le sens du monde très profond dans les mythes. Et je pense que ça peut nous alimenter face à la souffrance, face à des doutes, face à des peurs. On peut trouver des réponses aussi dans les mythes.
Merci.
Merci.
Beaucoup.
Merci. C'était donc une émission et une rencontre dans le cadre du Festival Voix Vive, une émission de radio également, Onde Poétique, qui se retrouve tous les jours. Laurent Keller sera à nouveau là jeudi, je crois.
Jeudi, oui.
Pour une autre rencontre.
Oui.
Merci à toi, Laurent. Merci à Théa.
Et merci à vous deux.
Merci. Merci, Maria Maïla. Merci, Arthur Scanus.
Merci.
Vos
beaucoup.
Ouvrages sont bien
et
sûr
merci
en
au
vente.
Public.
Et on les retrouve.
Très à l'écoute.
Pardon. On retrouve vos ouvrages sur la place du Pouf, bien sûr.
Onde poétique. Au Festival Voix Vive, à 7h.